L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Connaissez-vous Robert Dautray ? Probablement pas, car cet homme au parcours hors norme était aussi brillant qu'énigmatique. Rescapé de la rafle du Veldiv, il a connu l'exil avant de briller dans les plus prestigieuses institutions scientifiques françaises. De retour à Paris après la guerre, il est remarqué pour ses aptitudes exceptionnelles. Il va travailler sans relâche au service de son pays. Missionné par De Gaulle à la fin des années 60, Robert Dautray a joué un rôle clé dans l'histoire de la bombe H, bien plus puissante que la bombe atomique. L'académicien s'est éteint en 2023 dans l'anonymat le plus total. C'était un choix de sa part. Un an après son décès, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies lui ont rendu hommage le 19 novembre dernier. Et pour approfondir les facettes de cette personnalité marquante, nous avons interviewé un de ses confrères académiciens, le physicien Yves Bréchet, ainsi que sa nièce, Anne Rosenscher, journaliste à l'Express. Anne Rosenscher, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes journaliste à l'Express et vous avez publié au mois de septembre dernier un long portrait qui revient sur le destin fou de Robert Dautray. Une enquête comme vous avez l'habitude d'en faire, mais celle-ci est un peu particulière car vous avez un lien de parenté avec cet homme dont vous faites le portrait, Robert Dautray. Quel est-il ce lien ?
C'est mon grand-oncle, en fait, c'est le petit frère de ma grand-mère paternelle, Denise Couchier-Lévitz, qui est devenue Rosenscher par le mariage. Et Robert Dautray était son petit frère. Mais je l'explique assez rapidement, je ne l'ai jamais connu parce qu'il avait rompu les liens avec la famille, même avant que je sois née.
Et ce Robert, il était donc le petit frère de Denise. Il y a ce lien familial entre vous et lui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes intéressé à lui dans votre travail. C'est avant tout, vous écrivez dans l'article, parce que son histoire doit être racontée. Elle est une incroyable histoire française. Là, je vous cite.
Oui, absolument. En fait, tout est parti d'un déjeuner ici, à l'Académie des sciences. Je déjeunais avec Alain Fischer et Étienne Gis. Et je demandais comme ça des nouvelles de ce grand-oncle que je ne connais pas, mais dont je sais qu'il était un membre éminent de l'Académie. Et en fait, on m'a appris qu'il était décédé. Donc, j'étais un petit peu surprise. Et surtout, j'étais surprise de ne pas en avoir lu, vu une ligne dans les journaux. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a expliqué qu'il avait en vérité organisé cette espèce d'anonymat de sa mort en envoyant une lettre à une académicienne de ses amis, Dominique Meyer, dans laquelle il disait que, en gros, son père étant mort dans l'anonymat le plus total à Auschwitz, il ne souhaitait pas que sa mort à lui fasse l'objet d'une quelconque communication. La lettre est magnifique et bouleversante. On sent que c'est quelqu'un qui a été hanté toute sa vie par l'extermination de son père dans l'anonymat et qui, en fait, au moment de sa mort, veut le rejoindre dans cette espèce de trou noir de la notoriété, enfin, de la non-notoriété, justement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut raconter cette histoire complètement folle de cet enfant caché pendant la guerre qui, après, devient un éminent scientifique jusqu'à contribuer très largement, on le dit, père de la bombe H pour la France.
Alors, il est âgé d'une dizaine d'années quand la Seconde Guerre mondiale éclate. C'est à cette période que sa vie va prendre un premier tournant inattendu. Ce fils d'immigrés de l'Est échappe de peu à la rafle du Veldiv en 1942. Il fuit Paris avec une partie de sa famille dans le sud de la France. Il fuit avec sa sœur, sa mère Esther, mais il manque son père, comme vous l'avez dit, qui disparaît dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ce père, quelques mots sur lui, il s'appelait Max, lui aussi, il a eu un destin assez
fou. Alors,
Max, c'est son nom français.
Oui, c'est son nom français. Au départ, il s'appelle Mordechai Couchelievitz. Il arrive à l'aube du XXe siècle en France. Il y est poussé parce qu'il fuit une petite ville qui serait aujourd'hui dans l'actuelle Biélorussie, qui est près de Vilnius, qui s'appelle Lida. Et donc, il arrive en France, semble-t-il, à pied quand même. Donc, ça donne une idée du personnage quand il est adolescent, vers 15 ans. Et il rencontre à Paris Esther Mouskat, donc, qui, elle, arrive... elle aussi de l'Est, et c'est ensemble, en effet, au début du XXe siècle, qu'ils vont avoir d'abord Denise en 1922, et puis, 6 ans plus tard, Robert. Robert qui ne naît pas Robert Dautray, mais Robert Couchier-Lévitz, à Paris, au début du XXe siècle. La famille vit très très chichement, car Max, comme beaucoup de juifs de l'Est de l'époque, s'est spécialisé dans les peaux, les fourrures, mais les affaires ne sont pas bonnes du tout. Il est assez piètre commerçant, en tout cas c'est ce qu'écrit Robert dans ses mémoires. Donc ils vivent dans une grande pauvreté, ils n'arrivent à avoir un appart un peu digne de ce nom qu'au début de 1942. Et c'est une information importante parce que en fait leur adresse va rester la précédente adresse. Et c'est grâce à cette mauvaise information officielle que les policiers vont d'abord se rendre ce soir de juillet 1942 à leur adresse officielle où ils n'habitent plus. Et ce qui va permettre à la concierge des lieux, enfin la fille plutôt de la concierge des lieux, d'aller avertir la famille que la police les cherche. Et dès le lendemain, en effet, Max reste parce qu'il a encore un accent assez fort et qu'il a peur de compromettre toute la famille. Donc Esther part avec les deux enfants qui sont déjà un petit peu grands. Denise est en licence d'anglais et Robert est collégien dans une école spécialisée dans la menuiserie. Il se destine plutôt à des travaux manuel, il est assez doué de ses mains. Ils partent tous les trois, ils font un signe de la main à Max en partant à l'aube. Ils pensent le revoir parce que Max doit les rejoindre à la fin de l'été, mais en fait, il sera déporté fin août à Auschwitz.
Et il ne reverra jamais. Son père après la guerre. Durant ces années difficiles, durant cet exil où il fuit l'occupation, le jeune Robert va grandir dans le sud de la France. Il va se lier d'amitié avec le fils des voisins, Louis. Il va l'accompagner, l'observer, parce que ce Louis est berger. Et c'est le fait de l'accompagner va lui donner envie, en fait, de devenir lui aussi berger. Mais encore une fois, le destin va en décider tout autrement.
Il devient berger à un moment quand même. Donc, ils sont à Marguerite, qui est un bourg du Gard, où en effet, ils atterrissent là parce qu'ils avaient l'idée à un moment de rejoindre des cousins. Mais très vite, ils vont prendre leur petite maison à eux, qui est aussi alors encore un peu chiche. Mais à côté, en effet, il y a les Turcs, mère et fils. Donc elle c'est, on la surnomme la Romaine parce qu'elle est veuve d'un Romain, d'un homme prénommé Romain. Et lui s'appelle Louis Turc, il a une quarantaine d'années. Et en effet, dès le début, comme Robert ne va pas à l'école, qui est quand même caché, il va emmener Robert progressivement au pâturage avec lui. Et Robert découvre ce métier, la nature, parce que c'était un petit citadin. Et il en tombe follement amoureux. Il a des très belles pages dans ses mémoires sur ce qu'évoquent pour lui ces années-là, qui sont à la fois des années terribles, où il est caché, où il n'a plus son père, etc. Mais aussi des années à l'abri et un petit peu miraculeuses, où il apprend un métier qu'il aime, où il voit des paysages qu'il n'avait jamais vus et où, en gros, il bénéficie quand même de la solidarité, la bienveillance, la générosité, le courage de beaucoup de gens à Marguerite qui sont au courant de la situation. Donc, il y a là le couple d'instituteurs chez qui il va écouter la BBC avec Esther et Denise pour savoir où on en est de la guerre. D'ailleurs, ce couple d'instituteurs lui dit il faut qu'il passe le bac, alors que Robert a fait longtemps qu'il n'est plus scolarisé. Alors, grâce à ma grand-mère, qui est à l'époque... Denise, elle avait trouvé un petit poste dans la librairie de Nîmes. Il obtient des manuels sur lesquels il potasse. Et alors, vraiment, à la surprise générale, il obtient son bac. Ce qui est déjà une petite prémisse, on va dire, des aptitudes intellectuelles de Robert Dautray.
C'est que le début.
C'est que le début, exactement. Et juste pour dire quand même à quel point ça a été miraculeux, c'est qu'ils ont été après avertis par les gendarmes au moment où vraiment la milice nîmoise commençait à faire des raids pour débusquer les Juifs, qu'il fallait partir de Marguerite. Et là, c'est le curé de Marguerite qui leur trouve un point de chute chez sa sœur, dans un village du Causse, dans l'Aveyron. Et c'est comme ça qu'ils échappent une deuxième fois, éventuellement, à la mort, et qu'ils finissent par revenir à Paris après la libération pour reprendre le fil de leur vie qui n'était déjà pas facile avant, ou qui va être un petit peu encore plus compliqué après.
Il revient, il a passé le bac et puis il va intégrer presque par hasard les arts et métiers. Là-bas, il est remarqué très vite, encore une fois, par ses professeurs qui vont le pousser à passer Polytechnique. Il savait absolument pas ce que c'était, mais il va en sortir major de promo. Ça, c'est fou, parce qu'il connaissait absolument pas cet univers. Vous l'avez dit, ses parents n'étaient absolument pas scientifiques. Il a un cerveau hors du commun. C'est durant ses années polytechniques qu'il décide de changer de nom, d'ailleurs. Oui. Alors, on aurait pu penser qu'il avait changé pendant la guerre. Non, il attend polytechnique. Pourquoi il change de nom?
Je pense que pendant la guerre, de toute façon, il vivait caché. Je pense que vraiment, après la guerre, il en parle dans ses mémoires. Il dit que pour lui, c'est attaché à un trop lourd passé, que c'est trop dur, qu'il y a trop d'angoisse. À mon avis, ça a beaucoup aussi en rapport avec le destin de son père. Et donc, c'est assez marrant. Donc, il demande à Polytechnique, c'est par l'avocat de Polytechnique qui va faire sa démarche de changement de nom. Et on lui demande de fournir une liste de noms duquel on pourrait s'inspirer pour lui donner son nouveau nom de famille. Et donc, lui, à ce moment-là, à Polytechnique, il découvre aussi tout ce qui est l'histoire du grand siècle, les mémoires de Saint-Simon, etc. Donc, il donne une liste de noms parmi lesquels, je ne sais plus, il y a Destrée, enfin, des noms qui font très grand siècle. Et finalement, tout ça est mélangé et il en ressort Robert Dautray. Et il dit vraiment, pour moi, ça a été le parachèvement de mon adoption par la France. Tout d'un coup, j'avais un des noms. Et quel nom qui faisait de moi une espèce de Français à part entière qui épousait la patrie presque sans, à l'époque, pense-t-on sans passé, mais en vérité, on va voir que le passé va quand même le hanter toute sa vie.
Bien sûr. Et ça, c'était vraiment une volonté de sa part, de servir la France. Enfin,
oui.
Il le dit souvent, oui. J'ai regardé des interviews, c'est quelque chose qui était fondamental.
C'est d'ailleurs une question que moi, si je l'avais connue, j'aurais aimé lui poser, parce que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il pouvait avoir quand même aussi quelques motifs de... comment dire, de rancœur envers la France. Est-ce que c'est justement les conditions de son sauvetage? Est-ce que c'est parce qu'il veut rendre hommage aussi à ces Français qui l'ont sauvé? Est-ce que parce qu'il pense que, comme De Gaulle l'a dit, que Vichy est nul et non avenu et que la vraie France était ailleurs? En tout cas, oui, Robert Dautray sort de la guerre et sort de Polytechnique avec une ambition et une flamme patriotique au cœur, quoi.
Et pour retracer le parcours hors du commun de Robert Dautray, le physicien et académicien Yves Bréchet nous partage son témoignage également depuis son bureau de Saint-Gobain. Alors Yves Bréchet, vous avez bien connu Robert Dautray, vous avez occupé le même poste au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, à plusieurs années d'intervalle. C'est là-bas que vous l'avez rencontré pour la première fois? Comment vous l'avez connu?
Non, je l'ai rencontré beaucoup plus tôt et c'était assez caractéristique de Robert Dautray. J'étais un jeune professeur à Grenoble, j'avais écrit un article sur un sujet qui était à mi-chemin entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées, qui s'appelait « Comment est-ce qu'on peut concevoir des matériaux sur mesure ?» Et Robert Dautray, à l'époque, qui était quelqu'un déjà de très connu, m'avait envoyé une lettre en me disant « J'ai trouvé votre article intéressant, j'aimerais bien discuter avec vous. » Et donc, je ne savais pas bien en quoi ça pouvait l'intéresser, mais quand vous recevez une lettre de Robert Dautray, qui était le pape du calcul numérique pour les scientifiques, qui était un très grand physicien du nucléaire, évidemment, vous y allez. Donc j'y étais allé, un peu intimidé, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et le courant entre nous est passé très rapidement, et pendant 20 ans à peu près, on se voyait très régulièrement, jusque quasiment dans les derniers mois de sa vie. C'était assez caractéristique de Robert Dautray que d'aller rencontrer les gens et de dire... cette personne-là fait des choses qui m'intéressent, je ne me demande pas où il est dans la loi hiérarchique, je ne passe pas par la voie hiérarchique, je lui demande de discuter avec moi.
C'était pas un homme public, c'était un homme extrêmement discret, mais à côté de ça, il savait cibler et aborder les gens qui l'intéressaient.
Tout à fait. Et parmi les multiples leçons que j'ai eues de Robert Dautray, il me disait toujours « allez chercher la compétence où elle se trouve, elle se dilue en altitude ».
Avec la hiérarchie.
Donc j'ai passé mon temps à aller voir, chercher la compétence, y compris quand j'étais, et peut-être surtout quand j'étais au commissaire à l'énergie atomique, où la structure pyramidale peut écranter toutes les compétences. J'allais chercher la compétence à la base, et c'était une des recommandations de Robert Dautray.
Que vous avez suivi. Et vous dites aussi dans l'article, Dan Rosenscher, ce qui vous a marqué chez cet homme, c'est sa forme, son intelligence. Il avait une intelligence très particulière. Il était capable de fulgurance lorsque vous travaillez ensemble. Ça vous a particulièrement impressionné?
Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était, je crois, très caractéristique de la manière dont il avait appris les choses. En fait, il a appris beaucoup de choses tout seul. Et donc, il se reconstruisait une image, un raisonnement de connaissances scientifiques par ailleurs, mais qui lui était très personnelle, très particulière. Alors, en plus, à la fois par son goût, par sa formation, c'est quelqu'un qui avait un alliage assez unique entre une volonté de comprendre les choses au niveau fondamental et une volonté de pouvoir les appliquer. Donc c'était vraiment un scientifique autant qu'un ingénieur, un ingénieur autant qu'un scientifique. Et ça, je dois dire, ça me touchait beaucoup comme combinaison.
Et alors, si on parle un peu de sa carrière scientifique, alors il va faire les arts et métiers, passer ensuite par Polytechnique avant de débuter une carrière dans le nucléaire civil. Donc le nucléaire civil, c'est-à-dire tout ce qui touche à la production d'énergie, la recherche scientifique. Et puis sa carrière va prendre un tournant déterminant. On va le débaucher et il va travailler sous le gouvernement de Gaulle à la fin des années 60 pour travailler sur ce qu'on va appeler la bombe H. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment un peu particulier de sa carrière ?
C'est un mot qui est tellement particulier que ce n'est pas une chose sur laquelle on sait grand-chose là-dessus. Mais alors d'abord, une première chose que je voudrais dire, le début de la carrière de Robert Dautray, dans ce qui concernait le nucléaire civil, ça a été de concevoir un réacteur nucléaire d'études. C'était l'Institut Laue-Langevin à Grenoble, un réacteur au flux pour étudier la matière. Après, il s'est occupé d'un certain nombre de questions, d'enrichissement de combustible, c'est-à-dire ce qui rendait le nucléaire civil possible pour pouvoir en faire un atout pour le pays. Et puis, il a été appelé à s'intéresser, à regarder de très près, voir et à piloter l'arme de dissuasion. Et là, sa contribution est beaucoup plus que ce qu'on a dit, c'est-à-dire de dire que quelqu'un est le père de la bombe H, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est un truc de journaliste, ça. C'est à un moment, il y a un certain nombre d'idées qui sont dans l'air, et puis il faut quelqu'un qui soit capable de les synthétiser, de les dynamiser, de mettre toute une grosse machine sur les rails pour développer la bombe. Mais la chose qui est encore plus impressionnante chez Robert Dautray, c'est un visionnaire. C'est-à-dire, Robert Dautray, non seulement il a été à l'origine de la réalisation de l'arme thermonucléaire, mais c'est aussi lui qui avait vu dès les années 70 qu'on ne pourrait pas continuer à faire des essais nucléaires. Et qu'en conséquence de quoi, il fallait appuyer l'arme de dissuasion sur la capacité à prédire ce qui se passait dedans, donc à comprendre la physique calculs qu'il y avait là. Donc l'idée de la validation de l'arme de dissuasion par le calcul, c'est quelque chose qui est pas du tout visible du point de vue journalistique, si j'ose dire, ou du point de vue public, mais c'est la contribution essentielle. Et de dire, alors il y avait cette idée de « je justifie par le calcul, par le fait d'avoir compris ce qui se passait, mais je me méfie aussi du calcul, c'est-à-dire je développe des expériences qui sont utilisées pour valider le calcul aux endroits où il n'est pas très sûr ». Et donc, ça a été le laser mégajoule, ça a été le dispositif épure qui se trouve à côté de Valduc. Donc, il y a vraiment toute une stratégie qui est la stratégie qui a permis de développer jusqu'à aujourd'hui l'arme thermonucléaire. Donc, cette œuvre de Robert Dautray est beaucoup plus riche et beaucoup plus importante que simplement « j'ai trouvé la formule pour faire la bombe H ».
Qui va valider l'arme par des calculs et non des essais. Juste une petite précision, parce que je pense, enfin moi personnellement, je ne connaissais pas la différence. Comment on distingue bombe H et bombe A ? La bombe atomique, ce sont deux...
Alors, la bombe A, c'est une réaction de fission non contrôlée. La bombe H, c'est une réaction de fusion. Donc, dans un cas, vous prenez des gros atomes et les cassez en petits morceaux, et le défaut de masse vous donne l'énergie. Dans l'autre cas, vous prenez des petits atomes, vous les envoyez l'un contre l'autre, et pour faire ça, il faut initier ça par une première bombe qui est la bombe A, et puis la fusion des atomes dégage énormément d'énergie, et ça, c'est la bombe H.
Donc la bombe H est beaucoup plus puissante que
Beaucoup plus puissante. Alors après, il y a un autre aspect qui est très important, dont on ne parle jamais, c'est que ce qui fait qu'une arme thermonucléaire est performante, c'est pas simplement qu'elle est destructrice, c'est aussi qu'elle est miniaturisée. Et là, vous voyez, vous retrouvez Dautray à la fois dans cet aspect ingénieur et cet aspect scientifique et cet aspect ingénieur. Quelle est l'ingénierie que je dois faire pour pouvoir miniaturiser le dispositif ?
Après la grande aventure de la bombe H, il va rejoindre le CEA, il va même devenir en 93 le haut commissaire à l'énergie atomique. Et vous dites que depuis, Robert Dautray est resté aujourd'hui le maître étalon de ce poste-là.
Moi, je l'appelais le haut commissaire étalon.
Oui.
C'est simplement parce que cette manière de regarder au fond des choses et de ne pas confondre la fonction de haut-commissaire avec une fonction de direction. La fonction de haut-commissaire est une fonction de conseil. Et moi, je dois dire que j'ai appris mon métier de haut-commissaire en discutant avec Robert Dautray bien avant d'être haut-commissaire. Cette idée qu'on doit, on donne un conseil à un politique, mais on ne le donne qu'à lui, on ne le donne pas sur la place publique. Qu'on ne doit pas donner à un politique une seule solution. On doit lui donner un ensemble de décisions possibles en argumentant sur le pour ou le contre de chaque décision. De façon à ce que le politique qui a la légitimité de la décision puisse avoir aussi la rationalité de l'analyse. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel dans la manière dont Robert Dautray voyait sa fonction de conseil du politique. Et c'est en ce sens que je l'appelais, ça le faisait toujours sourire, mais que je l'appelais le haut-commissaire étalon.
Alors Anne Rosenthal, vous l'avez dit, vous n'avez jamais rencontré cet homme. Votre grand-mère Denise, sa sœur aînée, avait aussi peu de liens avec lui, en tout cas après la guerre. Il semblait avoir pris quelques distances avec sa famille.
Alors après la guerre, ils ont eu des liens très forts, ils étaient très proches, ils s'aimaient énormément, mais en revanche, on ne sait pas pourquoi, c'est quand même un mystère familial. Il y a un moment où il s'éloigne et où il ne répond plus. Voilà. Comme la plupart des gens désormais sont morts, c'est compliqué de faire une enquête rétrospective. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, il est allé voir ma grand-mère à l'hôpital quand elle était mal en point avant de mourir. Je pense que c'est quelqu'un qui a gardé une fidélité à sa sœur. Néanmoins, on sent qu'il y avait quand même chez lui presque une volonté de couper les liens avec la filiation, je dirais.
C'est un homme assez mystérieux, étonnant. Il a à son actif beaucoup, beaucoup d'accomplissements scientifiques. Il aurait pu tirer une gloire médiatique de tout cela. Pas du tout. Ce qui est très frappant dans votre enquête, ce qu'il en ressort, en tout cas, c'est la discrétion ultime de cet homme. Vous dites qu'il avait cette obsession, celle de ne pas laisser de traces.
Oui, c'est vrai. C'est assez marrant parce qu'il a fait don d'une partie de ses livres de collection scientifique à l'Académie des sciences. Ils sont dans le bureau du secrétaire perpétuel. Et je crois que c'est une documentaliste qui a fait remarquer que souvent, les collectionneurs, ils mettent leur ex libris, vous savez, sur le début des pages.
Son nom,
là, il n'y en a pas. Et ça ne m'a pas étonnée. Enfin, c'est quelque part cette idée de ne pas laisser de traces. En même temps, certains m'ont fait remarquer à la lecture de l'article, et ils avaient raison de me le signaler, il y a quand même quelque chose de paradoxal parce qu'il a écrit ses mémoires.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure.
Donc voilà, de toute façon, il y a des paradoxes dans cet homme parce que c'est un homme qui ne veut pas laisser de traces mais qui écrit ses mémoires. C'est un homme qui abandonne le nom de son père mais dont on s'aperçoit à la mort qu'il a été toute sa vie hanté et fidèle par la mémoire de son père et qu'en fait, je pense qu'il n'a eu de cesse d'honorer la mémoire de son père. Et quand il dit... En fait, il faudrait que je vous lise vraiment ce qu'il a écrit dans sa lettre adressée à Dominique Meyer pour qu'on mesure à quel point on... Finalement, il y a comme une part de l'énigme qui se résout avec cette lettre. Il dit « Le mot de souffrance est ridiculement trop faible pour exprimer ce que fut de devoir survivre à la négation de la dignité humaine de mon père depuis le convoi qui le menait vers le camp d'Auschwitz jusqu'à son sort de fumée et de cendres anonymes. C'est pourquoi je souhaite qu'à ma mort, il n'y ait aucune annonce ni aucune cérémonie de la part de l'Académie des sciences. » Voilà, on comprend quand même, comme je vous dis, c'est une pièce du puzzle qui s'imbrique, que toute sa vie, il a eu une espèce de double fidélité, fidélité à la France, qu'il n'a cessé de servir par la science, c'était vraiment son projet et il l'a fait, que ce soit dans la recherche sur la bombe H ou après en tant que haut-commissaire à l'énergie atomique, mais aussi une fidélité aux cendres d'Auschwitz et donc à son père, à qui il consacre finalement sa mort.
Tout est dit dans ces mots que vous avez cités. Et l'Académie des sciences, dont il était membre et une figure tutélaire, a respecté ce souhait. Pas d'annonce, pas d'hommage, c'est le silence absolu. Et même vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez appris sa mort assez tard, au hasard de cette fameuse lettre. Vous avez pu la voir.
Dominique Meyer, qui l'avait reçue, me l'a lue. Voilà. Et surtout, les mots étaient tellement forts qu'en vérité, je m'en souvenais après en sortant de ce rendez-vous. Puis j'ai pris quelques notes sur le moment. Et donc, c'est comme ça que je connais les mots exacts.
Alors Yves Réchet, un mot sur son statut d'académicien, parce que vous l'avez côtoyé quelques années à l'Académie des sciences. Dans cette institution, Robert Dautray, il était tout aussi discret, tout aussi réservé ?
Robert Dautray n'était pas quelqu'un de bavard. Il discutait très volontiers avec les gens en tête à tête. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait volontiers la parole de manière flamboyante en public. Et donc, il a participé à des rapports de l'Académie des sciences. Il a présidé des commissions de l'Académie des sciences. Il a aussi fait des rapports à l'Académie des sciences, c'est-à-dire il travaillait sur un sujet et il le présentait devant l'Académie des sciences. Donc, il a été très présent dans l'Académie, un peu moins dans les dernières années où il était très âgé. Et puis, il y a eu cette infection du Covid qui a un peu rompu les liaisons sociales, ce qui fait que les gens ne se voyaient plus. Mais il était très présent à l'Académie des sciences et il avait des attachements très forts à l'Académie des sciences, dans le domaine de la biologie avec Dominique Meyer, dans le domaine de la physique avec Jacques Friedel. Jacques Friedel était un peu l'alter ego de Robert Dautray. J'ai eu la chance de bien connaître et de travailler avec les deux. C'était absolument extraordinaire comme expérience de travailler avec Friedel et Dautray en même temps. Dautray, évidemment, avec les mathématiques appliquées, avec Olivier Pironneau, avec Jacques Louis Lyons, qui a été son partenaire dans la rédaction du traité de Dautray et Lyons de mathématiques appliquées. Il était très proche aussi de Robert Guillaumont, qui est toujours d'ailleurs un chimiste du nucléaire. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec lui de Ghislaine Marcilly, récemment décédé, qui était un éminent géologue et hydrogéologue. Mais Robert Dautray avait une manière de choisir les gens avec qui il discutait parce qu'il considérait que ça permettait de faire avancer les sujets. Et donc, en tant que tel, il était très impliqué à l'Académie. Il aimait bien l'Académie. Et les deux académies, d'ailleurs, puisqu'il était aussi à l'Académie des technologies. Il était peut-être plus actif à l'Académie des sciences.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il était visionnaire. Alors, j'ai lu qu'il était aussi l'un des premiers à avoir alerté sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait une conscience écologique ou c'est peut-être trop de dire ça? Comment il se situait par rapport au réchauffement?
Je pense que Robert Dautray avait... Alors, bon. En ce qui concerne le réchauffement climatique, il n'est pas le premier à l'avoir dit. Vous avez des choses sur l'effet de serre chez Arrhenius et Arago, donc ça date du 19e siècle. À la fin des années 80, s'est posé de manière beaucoup plus cruciale le rôle non pas du CO2 dans le réchauffement climatique, mais le rôle de l'être humain dans les émissions de CO2 dans le réchauffement climatique. Et donc, il a fait un premier rapport avec l'Académie des sciences sur ce sujet-là. Il a aussi écrit un livre qui est un peu oublié, qui a été très joliment commenté par Valérie Masson-Delmotte le jour de la conférence, qui est un livre qui s'appelle « L'homme face au réchauffement climatique ». Et il l'a écrit avec un de ses camarades, qui s'appelait Jacques Lesourne, qui a été à un moment directeur du Monde, et qui était un économiste et un prospectiviste. Et ils ont écrit ce livre, où il y a à la fois la physique du réchauffement climatique, il y a tout ce qui concerne la climatologie, ce qui concerne l'agriculture, concerne la géopolitique, l'économie. C'est un livre qui est une synthèse assez extraordinaire des différentes facettes des problèmes du réchauffement climatique. Donc, d'une certaine manière, dès le départ, il en a vu toute la variété. Un des derniers articles qu'il a écrit, c'était avec Dominique Meyer, c'est un article dans la revue Commentaires, qui est un article sur l'adaptation au réchauffement climatique, à une époque où c'était mal vu de dire ça. Mais Robert Dautray était un esprit libre.
J'avais une dernière question, Yves Bréchet. Vous avez participé à un colloque le 19 novembre dernier, organisé par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies, un colloque qui était donc un hommage à Robert Dautray, et vous avez conclu la journée avec l'intervention suivante, les leçons de Robert Dautray. Je voulais vous demander quel héritage laisse-t-il ?
Alors, le colloque à l'Académie, c'était un colloque qui était un colloque conjoint entre l'Académie des sciences et l'Académie des technologies, et qui a été conjointement organisé par Yves Bamberger, de l'Académie des technologies, et moi-même, du côté de l'Académie des sciences. Et d'une certaine manière, on a terminé le colloque par une synthèse qu'on a fait sous la forme d'un duo, sous la forme d'un dialogue, et autour d'un certain nombre de thématiques qui nous semblaient emblématiques de Robert Dautray, de son œuvre, de son implication. Le titre du colloque, Robert Dautray, un scientifique et un ingénieur au service de la France. On n'a pas eu de difficulté à trouver ce titre, c'est juste Robert Dautray, ça. Et d'une certaine manière, on a commencé par dire les premières leçons, c'est d'abord d'être au service de la France, au service de son pays, et pour faire ça, le mensonge n'est pas une option, n'a jamais été une option. La clarté et l'honnêteté est absolument indispensable. Le deuxième aspect, c'est d'avoir une version équilibrée entre la science et la technologie. Ça, c'est très caractéristique de Robert Dautray. Ça n'est pas une version hiérarchisée de l'une qui serait une conséquence de l'autre ou l'autre une justification de la première. C'est une vision équilibrée entre les deux. Le troisième point, c'est les mathématiques qui jouent un rôle particulier dans l'œuvre de Dautray. Et c'est une discipline clé pour résoudre un certain nombre de questions. Mais cette discipline clé, elle-même, amène un équilibre à se poser la question de l'équilibre entre le calcul et la validation expérimentale. Une autre leçon de Robert Dautray, c'est pour comprendre un sujet de manière profonde, c'est d'avoir à la fois la vue d'ensemble et celle des éléments de détail, de manière précise, de s'approprier les ordres de grandeur au terme d'une recherche sur toutes les références. Et tout ça, ce n'est pas juste fait pour comprendre. Robert Dautray est un homme d'action, c'est comprendre pour agir. Ça, c'est aussi un aspect qui est important dans ces leçons. Un autre aspect qui transparaît, j'espère, dans les réponses que j'ai données à vos questions, c'est écouter, partager, poser des questions, développer les contacts nécessaires et intéressants sans se mettre au-dessus des autres. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Robert Dautray était d'une extrême courtoisie dans les contacts qu'il avait avec les gens. Et enfin, la dernière chose, et ça, il l'a gardé jusqu'à son extrême fin, c'est garder sa curiosité et une véritable capacité d'émerveillement dans tous les domaines. Que ce soit des domaines scientifiques, techniques, culturels, humains. Moi, je me souviens, quand j'étais au commissaire et même après, chaque fois que je faisais un voyage à l'étranger, je venais voir Robert Dautray et me disait « Qu'avez-vous vu ?» Et il ne voyageait plus depuis très longtemps, mais ça l'intéressait de savoir comment se développait tel ou tel pays, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans les laboratoires. Et cette capacité d'émerveillement ne l'a jamais quitté et l'a même accompagné quand il parlait aux étudiants. C'était assez extraordinaire. Robert Dautray parlait aux étudiants. On a eu un témoignage de Daniel Suchet qui, avec un groupe de jeunes polytechniciens, c'est moi qui avais organisé ça, était venu à Grenoble visiter l'Institut Loyal-Langevin, c'est-à-dire 50 ans après qu'il l'ait construit, qu'il l'ait conçu, c'était complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faisait passer la passion de la science et de la technique. Il l'a partagé.
Eh bien, merci beaucoup Yves Réchet pour cet hommage. Et merci aussi à Anne Rosenscher qui est venue dans le studio de l'Institut pour nous raconter aussi une facette tout aussi personnelle de Robert Dautray. Je rappelle qu'un colloque a été organisé par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies le 19 novembre dernier en son hommage. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site.
Canal Académie.